Gloire au Seigneur. Bonjour à tout le monde et nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur. C'est un grand privilège que de passer des moments semblables dans la louange et dans l'adoration. Je vous invite à faire une lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49. Ésaïe, chapitre 49, nous commencerons la lecture à partir du verset 8. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs « Sortez !» et à ceux qui sont dans les ténèbres « Paraissez !» Ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceci, où était-il? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui remplit notre cœur d'une espérance glorieuse. Nous pouvons dire tous autant que nous sommes ici aujourd'hui que tu es toujours le même, un Dieu admirable, glorieux, puissant, pour qui rien n'est impossible. Et je te prie que dans ta grâce, tu nous conduises dans ces instants de méditation. Bénis mes frères et sœurs ici présents. Aide-moi, Seigneur, que ta grâce soit notre partage et que ces moments de méditation servent à nous affermir en toi. S'il te plaît, agis par ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te faisons confiance et nous te louons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Le thème de ma méditation ce matin, ce sera l'amour qui ne se séparera jamais de nous. Nous avons un Dieu qui, dans sa grande patience, dans sa grande miséricorde, dans sa grande compassion, a toujours les regards fixés sur chacun d'entre nous et est prêt à nous guider de telle sorte que nous puissions atteindre le but qu'il s'est assigné pour chacun de nous, c'est-à-dire que nous devenions semblables à son Fils bien-aimé, Jésus. C'est réellement dans cette direction que chacun d'entre nous doit aller. Vous avez certainement constaté, en faisant la lecture de ce texte avec moi, que ce passage ne contient absolument aucun reproche. Il n'y a pas de parole dure à l'égard de ce peuple qui pourtant si souvent à l'égard de Dieu a manifesté un cœur roide, un cou roide et un cœur dur. Mais le Seigneur lui parle ici avec une grande tendresse et lui montre que pour lui, rien n'est impossible et surtout que ce qu'il a prononcé par sa bouche, sa main va l'accomplir. Effectivement, le peuple auquel s'adresse Dieu au travers de la bouche du prophète Ésaïe se trouve en captivité à Babylone. Nous nous rappelons ensemble que ce peuple a connu, entre autres, deux captivités très importantes qui ont un symbole particulier et Paul, dans une de ses épîtres, nous dit que ce qui est arrivé à ce peuple leur est arrivé pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. La première et la plus grande de ces captivités connues de tous, c'est celle que ce peuple a connue lorsqu'il a été esclave pendant 400 ans en Égypte sous le règne tyrannique de Pharaon. Mais par la grâce de Dieu et selon l'expression qui se trouve dans la Bible, Dieu a délivré ce peuple à main forte et à bras étendus et lui a permis de connaître la grâce d'entrer dans un pays merveilleux, un pays où coule le lait et le miel, et Dieu l'a guidé, l'a conduit de telle sorte que ce que Dieu avait annoncé a pu se réaliser et s'accomplir. La deuxième captivité, c'est celle qu'il a connue à Babylone, sous la main tyrannique de Nebuchadnezzar. Et tandis qu'il était à Babylone, alors Dieu a prononcé une parole, c'est important que nous sachions cela. Au travers de ce prophète Jérémie, il annonce à ce peuple qu'au bout de 70 ans, il interviendrait et le rendrait à la liberté. Pourquoi il a été amené en captivité à Babylone? Parce que, comme nous l'avons déjà dit au commencement de cette méditation, le péché s'est manifesté malgré les promesses que lui, le peuple, avait faites à Dieu. Vous vous souvenez certainement qu'à un moment donné, alors que Dieu parlait depuis la montagne du Sinaï, ils ont tremblé. Et ils ont dit à Moïse qu'il te parle à toi, mais nous ne pouvons pas continuer à l'écouter. Ce qu'il te dira, nous le ferons. C'est facile de dire cela, mais la pratique a démontré qu'ils n'ont pas été capables d'obéir à Dieu. Et à cause de leur désobéissance, à cause de leur péché, Dieu a permis qu'ils soient amenés en captivité, mais une captivité qui a été limitée, 70 ans. Et quand nous lisons le texte qui est sous nos yeux, c'est juste au moment, je dirais à la veille de la délivrance annoncée par Jérémie, qui allait s'accomplir. Et ce peuple, malgré la parole qu'il connaissait, qui avait été annoncé par le prophète Jérémie, tremblait, craignait, avait dans son cœur une sorte de peur du lendemain. Et il se disait, mais que sera notre retour? Nous allons traverser tous les dangers de cette route qui va nous ramener dans le pays que Dieu nous a donné. Et puis, que va faire ce terrible tyran? Que va-t-il avoir comme réaction si nous entreprenons le chemin du retour? Ne va-t-il pas nous poursuivre? Ne va-t-il pas nous anéantir? Et Dieu, qui connaît le cœur de ce peuple, qui connaît ses tremblements, qui connaît ses craintes, qui connaît aussi ses doutes, son angoisse, alors veut le consoler. Et au travers justement du prophète Ésaïe, il lui dit simplement ceci: « Celui qui a pitié d'eux sera leur guide. » Et d'un seul coup, Dieu lui-même se présente comme étant le divin berger. Comprenez l'écho que ces paroles ont dû avoir dans le cœur de ce peuple élu. Qu'en voyez-vous? La caractéristique des Hébreux primitifs, c'était justement d'être dans leur âme des bergers. Jacob gardait le troupeau. Les patriarches, dans leur ensemble, étaient des gardiens de brebis. Le roi, par prédilection, celui qui est toujours nommé comme étant le roi par excellence, David, l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ du côté de la chair, était un berger. Dieu l'avait retiré derrière les troupeaux pour qu'il soit comme un berger, cette fois pour le peuple. Après avoir gardé les brebis, il allait aussi diriger, conduire, guider le peuple de Dieu. Les prophètes, pour la plupart d'entre eux, en tous les cas, les plus anciens, étaient des bergers. Et même, nous devons reconnaître, puisque la Bible le souligne, que les chefs religieux, y compris les chefs politiques, y compris l'Éternel lui-même, ont toujours été appelés les bergers du peuple. Vous vous rappelez certainement ce que David a écrit dans ce merveilleux psaume 23, quand il s'exprime en ces termes et il dit « L'Éternel est mon berger ». Alors, il y a un écho favorable dans le cœur de ce peuple. « Ah, mais si Dieu lui-même va nous guider, si Dieu lui-même va nous diriger, si Dieu lui-même va nous conduire, alors il y a un espoir. Alors il y a une espérance. » Et voyez-vous, le berger, il a un rôle très important. En Orient, il n'a pas le même rôle que les bergers que nous pouvons connaître dans nos régions et dans les pays occidentaux. Vous savez, le berger en Orient, le premier soin qu'il doit apporter, c'est de chercher d'abord un bon pâturage pour que les brebis puissent avoir la nourriture dont elles ont besoin. Mais ce n'est pas aussi évident que cela, parce qu'en Palestine, certaines régions ne sont pas propices à donner aux brebis ce dont elles ont besoin. Pourquoi ? À cause de l'aridité de certaines régions et des fois aussi parce que certains pâturages sont parsemés de plantes vénéneuses. Et le premier travail du berger, c'est d'aller dans le pâturage précédant les brebis, de chercher en discernant bien où se trouvent les plantes vénéneuses, dangereuses pour ces brebis. Et il va nettoyer, dégager le pâturage de toutes ces plantes-là. Et il va essayer de repérer autre chose. Il y a des trous qui prouvent que des serpents, des vipères se cachent à l'intérieur. Et il découvre là un danger pour les brebis qui, machinalement, continuant à paître tranquillement, vont s'approcher de ce trou d'où va jaillir la vipère et s'accrocher à son museau. Un danger pour elle. Alors qu'est-ce qu'il fait ? D'une manière générale, il brûle de la graisse de porc et il déverse cela dans ses trous. Puis quand il lève les yeux, il regarde aux collines qui sont autour et il repère toutes les tanières des chacals, des hyènes. Et il sait que là aussi, il y a un danger pour son troupeau. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre de grosses pierres et il va boucher ses tanières pour mettre son troupeau à l'abri. Et il va faire encore une chose. Quand il est à la recherche d'un pâturage, je viens de vous dire, il y a souvent dans ces lieux des terres arides et desséchées, de préférence. Il va chercher un endroit où un ruisseau traverse le pâturage. Mais écoutez bien ici, non pas l'eau stagnante, parce que l'eau stagnante constitue un danger pour ses brebis. Elle peut devenir un moyen où elles seront rendues malades par cette eau stagnante. Mais il ne faut pas non plus un torrent impétueux. Pourquoi ? Parce que dans le troupeau, il y a les petits agneaux. Et cela est un danger pour les petits agneaux. Alors, il va chercher simplement un endroit où il y aura une eau qui se renouvelle, qui est rafraîchissante, qui va pouvoir désaltérer le troupeau. Voilà le rôle du berger. Alors écoutez maintenant. Eux connaissent cela. Et ils pensent, Dieu se présente comme étant celui qui a pitié de nous. Dieu se présente comme étant le berger. Et écoutez le divin berger parler. Il dit simplement à ce troupeau qui est son peuple élu, il lui dit, mes brebis n'auront pas faim, elles n'auront pas soif, comme c'est consolant pour ceux qui entendent de telles paroles. Et ces brebis, eh bien, sont elles-mêmes comme encouragées, fortifiées. Je parle bien sûr de ce peuple qui commence maintenant à ressentir à l'intérieur du cœur qu'il y a auprès de Dieu toujours un espoir, et le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Le Dieu que nous servons n'a pas changé, ni dans sa miséricorde, ni dans sa compassion, ni dans son pouvoir de nous permettre de retrouver tout ce que l'ennemi de notre âme, et rien, personne d'autre que l'ennemi de notre âme, a voulu nous ravir, ou qui nous a été ravi, parfois, par notre propre négligence. Mais maintenant, les brebis savent, le divin berger est là, il va nous guider, il va nous conduire, nous n'allons pas nous égarer, même si le chemin est étroit, même si nous devons passer tout près des ravins, il sera là pour nous protéger, il sera là pour nous garder. Et vous savez, il y a dans le livre de la Genèse la parole d'un berger particulier qui est aussi rassurante. C'est la parole prononcée par Jacob. Vous vous souvenez, mes frères et sœurs, quand il a retrouvé dans une sorte de réconciliation son frère, qui pendant des années, avait alimenté une haine constante, permanente, dans son cœur. Mais un jour, Dieu a permis que Jacob et son frère se retrouvent. Et quand ils se sont retrouvés, alors Ésaü continuait à marcher avec une certaine, je dirais, vivacité. Et Jacob a arrêté son frère et lui a dit, écoute, va devant, mais moi je veux marcher au pas du troupeau. Pourquoi ? Parce qu'il pensait aux brebis qui allaitent, il pensait aux jeunes agneaux, et il a dit, moi je vais marcher au pas du troupeau. Je sais que mon Dieu, il marche toujours au pas du troupeau. Il ne force jamais la marche. Et c'est par l'action de son esprit qu'il peut convaincre. Jamais aucun homme ne pourra nous convaincre comme Dieu peut le faire par le moyen de son esprit. Comme j'ai apprécié les paroles que nous avons chantées tout à l'heure, quand nous avons proclamé « Nul n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi. Je n'ai confiance en personne d'autre qu'en toi. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. » Mais la Bible dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Alors mon frère, ma sœur, peut-être tu te trouves dans une vallée sombre, ténébreuse, et tu penses en cet instant, « Eh bien, comment est-ce que je vais m'en sortir ? Comment est-ce que je vais sortir de cette vallée ?» que je pourrais appeler même la vallée des pleurs. Vous connaissez la vallée de Baca, psaume 84. Quand je traverse la vallée de Baca, je ne crains rien, parce que Dieu a ce pouvoir extraordinaire de changer la vallée des larmes en vallée pleine de sources d'eau. J'ai entendu quelqu'un ce matin dire « Toutes nos sources sont en toi. » Mais mes frères et sœurs, qu'avons-nous besoin de plus que le Seigneur ? Qu'avons-nous besoin de plus que ce berger extraordinaire qui ne nous fera jamais défaut ? Nous ne plaçons pas notre confiance dans une dénomination, nous ne plaçons pas notre confiance dans un système. Tous les systèmes se ressemblent et tous les systèmes, malheureusement, un jour ou l'autre, suivent une même pente désastreuse. Mais Dieu, lui, reste toujours le même. Et même si nous nous trouvons parfois sur une pente vertigineuse qui semble nous conduire dans un ravin, nous précipiter au fond pour que nous connaissions la mort, Dieu est puissant pour nous permettre, non pas de découvrir la mort, mais de constater que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà le berger que nous avons. Et d'un seul coup, eh bien, nous nous apercevons d'une autre chose dans le texte que nous avons lu. Le berger, permettez-moi de mettre en titre cet autre passage de ma méditation, le berger fera en sorte que les obstacles, eh bien, soient le moyen par lequel Dieu réalise son but. Et là, j'aimerais que votre attention soit portée sur la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. Il dit, promesse extraordinaire, « Je changerai, écoutez bien ici, toutes mes montagnes en chemin, en route frayée. » Avez-vous remarqué? Il ne dit pas « Je changerai toutes les montagnes », mais il utilise le pronom personnel. Il dit « Je changerai toutes mes montagnes en chemin frayé. » Avez-vous remarqué le nombre de fois où, pendant notre pèlerinage, notre marche chrétienne, nous parlons de certaines difficultés qui nous entourent, de certains obstacles qui se trouvent sur notre chemin, et quelquefois même de certaines choses que nous n'apprécions pas, à juste raison d'ailleurs, parce que c'est douloureux à vivre, parce que ça fait mal à notre chair, parce que ça brise aussi notre cœur. Combien de fois nous parlons de ces choses en ces termes? Ah, c'est un coup du diable. Et je dis souvent que le diable est la bonne. Ah, ne me prenez pas pour l'avocat du diable. Mais il faut quand même que nous reconnaissions que souvent, nous mettons sur le compte de l'adversaire des choses qui ont pourtant été permises par Dieu. Et il dit, mes montagnes. Or, il y a un homme qui s'est trouvé en face de certaines montagnes. Et il a exprimé cela à sa manière, dans une forme de prière, c'est le roi David, qui, en voyant les montagnes, a dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Avez-vous constaté? Il se trouve lui aussi comme dans une impasse. Et il se demande s'il pourra aller plus loin. D'où me viendra le secours? Mais il y a une parole positive. Le secours me vient de l'Éternel. Toujours le même. Dieu est celui qui nous donne la possibilité de découvrir des chemins frayés dans ces montagnes. Permettez-moi de faire allusion ici à l'expérience de cet homme que nous aimons certainement tous. En tous les cas, c'est peut-être l'exception parmi les hommes qui sont mentionnés dans la Bible. Dans la Bible, à son sujet, il n'y a rien dit de mauvais. David est un excellent homme, mais nous savons quand même que sa vie a été marquée par des choses assez grossières. Celui dont je voudrais vous parler, c'est Joseph. Et Joseph n'a pas été un homme dont on pourrait dire quelque chose de mal, on ne découvre pas dans sa vie quelque chose qui soit contraire à la volonté de Dieu. Et pourtant, quel chemin douloureux par lequel il est passé. Il a connu la calomnie, il a connu le mensonge dans son entourage, il a souffert la prison injustement, il a surtout, avant toute chose, fait l'objet de la haine de ses frères, qui l'ont vendu, comme chacun le sait. Et puis, Dieu l'a guidé au travers de ces montagnes, par un chemin que Dieu lui-même avait frayé. Probablement, lui n'aurait jamais voulu passer par un tel chemin, mais c'était le chemin de Dieu. Et quand il est arrivé au bout, et que finalement, comme il le déclare lui-même, il est devenu le père de Pharaon. Vous vous rendez compte, c'est l'expression biblique, père de Pharaon, le bras droit de Pharaon, celui qui régnait sur ce pays formidable. Les frères sont venus Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Je passe donc sur des détails. Mais à un moment donné, alors qu'ils étaient humiliés, brisés, alors Joseph a parlé à leur cœur. Et vous trouvez cela dans ce merveilleux chapitre 45 du livre de la Genèse. Et il parle à ses frères et il dit, « C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. » Comme si Dieu avait voulu qu'il précède, qu'il arrive là comme un guide, parce que Dieu avait pour objectif de venir au secours de toute sa famille, et par ce moyen-là, au secours de tout ce peuple. Mais quelle miséricorde, mais quel dessein de Dieu! Voyez-vous, Dieu est surprenant. Nous, nous avons du mal à reconnaître le chemin de Dieu parfois. Et nous voyons les choses d'une manière négative. Mais lui, très courageusement, il a dit « C'est Dieu qui m'a envoyé là. » Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous sommes devant une montagne, la seule chose que nous pouvons faire, c'est comme David. Lever les yeux vers en haut. Et vous savez, moi, je ne veux pas regarder même pas le sommet de la montagne. Je vais regarder plus haut. Quand on regarde au ciel, alors là, il y a quelque chose qui descend sur nous. C'est la suprême consolation, une assurance, une paix, la certitude que Dieu est au-dessus de tout et surtout de toutes ces montagnes-là qu'il a placées sur notre chemin. Mais vous vous rappelez de ce verset de l'Écriture ? En même temps qu'il a permis l'épreuve, n'est-il pas écrit qu'il a préparé le chemin pour que nous en sortions ? Et si Dieu l'a dit, comment est-ce que nous pourrions douter de sa fidélité ? Retournons-nous ensemble, les uns et les autres, regardons derrière nous le chemin parcouru. Certes, il y a eu des larmes, il y a eu des souffrances, il y a eu des moments, je dirais, nous ne souhaiterions jamais revivre cela. Mais n'est-ce pas vrai ? Qu'au travers de tout cela, Dieu nous a conduits, guidés, et nous constatons, oh ben, quand j'étais dans l'épreuve, jamais je ne pouvais réaliser que finalement c'était pour mon bien. Et Dieu a fait tout concourir pour que mes yeux s'ouvrent sur la grandeur de l'amour de Dieu. Et même si nous ne voyons pas le chemin, c'est au fur et à mesure que nous avançons que nous pouvons le découvrir. Quand on regarde la montagne de loin, on ne voit pas les routes, on ne voit pas les chemins. Mais au fur et à mesure que l'on avance, alors on découvre qu'il y a des chemins qui ont été préparés par Dieu. Et c'est là ce qui a consolé ce peuple. D'autant plus que s'ajoute un autre point remarquable. D'un seul coup, il dit ceci, si on disait « Dieu m'abandonne », peut-être quelqu'un se trouve au milieu de nous, dans une situation en apparence inextricable, et se dit « Mais pourquoi Dieu permet cela ?» Je dois vous avouer, mes frères et sœurs, qu'il m'arrive parfois d'être perplexe en face de certaines situations que je ne comprends pas. Pourquoi des êtres fidèles qui ont servi avec un cœur noble, pur, pourquoi terminent-ils leur vie parfois d'une façon, semble-t-il, misérable aux yeux des hommes ? Pourquoi cela ? Pourquoi ? Je ne peux pas l'expliquer. Il y a une chose, c'est que Dieu me fera comprendre plus tard. La Bible me dit que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et moi, je ne peux pas, misérable vase d'argile, eh bien m'interposer, essayer de mettre en avant certaines choses, ou expliquer, ou essayer d'expliquer certaines choses. Il y a des moments où je dois baisser la tête et dire, je ne comprends pas, Seigneur, mais toi, tu sais, toi, tu connais, toi, tu es au-dessus de tout, et il change tout pour notre bien. Un jour, tout nous sera révélé. Mais pour le moment, les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à Dieu. Faisons-lui confiance et attendons-nous toujours à son secours. Mais quand Dieu entend le peuple dire « Il nous a abandonnés », alors il réagit. Avez-vous remarqué comment ? Il dit simplement ceci. « Si on disait « Dieu m'abandonne », et il ajoute « Le Seigneur m'oublie ». Et Dieu répond « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ?» Vous savez, de l'amour d'une femme, le plus grand de tous, c'est l'amour d'une mère. Elle excuse tout. Et même quand un enfant est peu digne de son amour, jamais elle ne dira « Tu n'es plus mon enfant ». Hélas, à l'heure actuelle, parmi les femmes, il y a bien des réactions négatives comme celle-là. Mais d'une manière normale, logique, et ceux qui ont eu, comme moi, le privilège d'avoir des parents dignes de ce nom savent que l'amour d'une mère est grand. Mais l'Éternel ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit même si cela arrivait, même si une mère abandonnerait le fruit de ses entrailles, moi, je t'abandonnerai jamais. Vous comprenez maintenant pourquoi ? J'ai choisi comme thème et titre de ce message l'amour qui ne nous abandonnera jamais. Et si nous tournons quelques feuilles de notre Bible pour arriver jusqu'à l'épître de Paul aux Romains, mais je vais lire pour vous, eh bien, il y a quelque chose qui nous interpelle. Écoutez comment Paul parle. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Écoutez encore. Car j'ai l'assurance. Regardez la ferme position de Paul, modèle pour chacun d'entre nous. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que voulez-vous de mieux, mes frères et sœurs ? Que peut-on espérer de mieux que cela ? Savoir que l'amour de Dieu ne nous fera jamais, jamais défaut. La Bible dit que l'amour de Dieu est éternel. Et ici, eh bien, regardez comment le cœur du peuple, craintif, dans l'angoisse, a dû être réchauffé. Mais Dieu m'aime. Mais Dieu est mon consolateur. Mais Dieu est mon guide. Et il me dit, il ne m'oubliera pas. Et non, et savez-vous pourquoi il ne peut pas nous oublier ? Un peu plus loin, il le mentionne. Il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Pas difficile pour moi de rentrer dans ces détails et de montrer que les marques dans ses mains lui rappellent ce que nous sommes et que nous sommes devenus ses enfants grâce à l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur. Vous savez, les Orientaux avaient l'habitude de graver une sorte de tatouage, si vous préférez, dans leur chair, le nom de certains êtres qu'ils ne voulaient pas oublier. Eh bien, vous vous rappelez certainement d'avoir lu dans l'Évangile comment il a parlé à certains incrédules, comme par exemple Thomas, en lui disant, « Viens, regarde, vois mes mains, regarde mon côté. » Et la Bible me dit que dans le ciel, l'agneau de Dieu qui a été immolé à notre place, il est là aussi avec ses marques. Le livre de l'Apocalypse dit, je voyais là un agneau comme immolé. Les marques des souffrances de Christ sur la croix, il les porte encore. Impossible qu'il nous oublie. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas non plus nous oublier que ce sont nos péchés qui l'ont cloué à la croix. Ce sont nos iniquités qui l'ont amené là. Il dit donc, je ne peux pas t'oublier. Il dit bien, mes mains, non pas une main, mes mains. Je t'ai gravé dans mes mains. Quelqu'un a dit ce matin, merci Seigneur, parce que tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. À ce sujet d'ailleurs, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas le jour où j'ai dit, oui Seigneur, je t'accepte comme le sauveur de mon âme qu'il m'a inscrit. Vous savez ce que dit la Bible ? Dès avant la fondation du monde, il nous connaissait et il nous avait inscrit dans le livre. Je voudrais vous dire, dans ce livre, il n'y a que des noms effacés, mais pas de nouveaux noms. Même ceux qui arrivent maintenant, ils sont déjà marqués. Dans un instant, je vais ajouter un autre point. Mais c'est ça qui est formidable de savoir que Dieu ne peut pas donc nous oublier. C'est impossible à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à notre faveur. Il chérit son peuple. Quelqu'un encore parmi nous a dit qu'il chérit l'Esprit qu'il a fait demeurer en nous. Et ça, c'est rassurant. Écoutez, mes frères et sœurs, plus d'une fois, dans des moments difficiles, j'ai trouvé un refuge dans ces paroles formidables du Seigneur. Je sais qu'il ne m'oublie pas. Et il ajoute, tes murs, écoutez bien, tes murs sont toujours devant mes yeux. À cette époque, si j'avais pu exister à ce moment-là, j'aurais dit, Esaïe, tu dois te tromper. Pas possible que Dieu parle comme cela. Regarde l'état des murs. Ils sont en ruine. Vous vous souvenez d'avoir lu dans le livre de Néhémie, quand justement lui est revenu pour constater, faire le constat des ruines qui étaient là à Jérusalem, il dit que sa monture, elle passait sur des décombres, que la ville était pleine de décombres, que les murs étaient en ruine, entièrement démolis. Et Dieu, il ne voit rien de ça. Il dit, tes murs sont toujours devant moi. Ça ne vous choque pas, ça ? En tous les cas, moi, ça me remplit d'espoir. Ça veut dire que Dieu, lui, il voit la finalité des choses. Pas ce que nous, nous pouvons voir à l'instant présent. D'ailleurs, c'est formidable de découvrir cette expression-là. Il voit les murs comme si jamais ils avaient été démolis parce qu'il sait très bien ce qu'il va faire. Et vous vous rappelez de cette promesse de l'Écriture qui affirme, c'est Paul qui a écrit aussi cela, Dieu est fidèle et l'œuvre qu'il a commencée, il la rendra parfaite. Pas formidable ? Pouvons être sûrs que Dieu ne s'arrête pas en chemin. Alors, le peuple peut continuer à se poser des questions. Et d'ailleurs, c'est évident au travers de ce texte-là. Et Dieu, pourtant, lui dit, porte le regard autour de toi et regarde, regarde ce qui va se passer, ce qui est en train de se réaliser. Et c'est vrai que, à cause de cette captivité, à cause de tout le péché du peuple, il y avait de la désolation et puis il y avait eu la dispersion et ce peuple disait « je suis répudié ». Alors, juste un peu plus loin, au chapitre 50, alors que le peuple dit « j'étais qu'on me répudiait, une femme stérile, je ne pouvais pas enfanter. Mais d'où ils sortent maintenant ces enfants qui viennent comme cela, qui reviennent, d'où ils sortent? Et Dieu, au chapitre 50, juste dans les premiers versets, il dit « Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère ?» Il les interpelle et il leur dit, parce que ça c'est une évidence, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, Dieu n'est pas favorable au divorce. Je ferme la parenthèse. Et il n'est pas non plus favorable au fait que le peuple dise, je suis répudié. Non. Il dit, où est la lettre par laquelle je t'ai répudié? Est-ce que tu peux me la montrer? Quel est l'homme qui, en voyant l'infidélité de sa femme, pourrait continuer à aimer, à reconstruire avec elle-même? C'est difficile, mais Dieu dit, moi, oui, je peux le faire. Moi, oui, je peux le faire. C'est-à-dire que la lettre de répudiation, elle n'existe pas pour Dieu. Et il dit, je continue à vous aimer exactement de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, à cause de cela, nous avons l'espoir de voir aussi des hommes et des femmes rentrer dans la famille de Dieu. Et aujourd'hui, il y a une âme qui rentre dans la famille de Dieu. En fait, je dis cela il y a longtemps, qu'à partir du moment où le Seigneur a été accepté dans sa vie comme le Sauveur, elle est rentrée dans la famille de Dieu. Mais publiquement, le témoignage est rendu aujourd'hui, et c'est quand même formidable. Et mes frères et sœurs, je prie le Seigneur pour que dans toutes les églises, en dehors de toutes les considérations de dénomination qui ne sont que le partage des êtres humains qui élèvent des murs entre eux, en dehors de tout cela, il y a une multitude d'hommes et de femmes qui rentrent dans le royaume de Dieu. Parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est quoi? Elle est composée d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau, régénérés par le Saint-Esprit. Il n'y a pas question de dénomination. L'Église de Jésus-Christ, elle est composée d'hommes et de femmes qui ont été transformés, régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Et il dit, regarde, regarde, ils arrivent. Parce que ça, c'est le travail de la grâce. Avez-vous remarqué ce qui est dit au commencement du texte? Il est dit, à l'heure de la grâce, au jour de la grâce, je t'exaucerai. Parfois, nous croyons que tous ces bénéfices sont le résultat de nos efforts. Non! Toi, mon frère, et moi, nous sommes des inutiles. Et la Bible dit que même après avoir tout accompli, nous devons nous considérer comme des serviteurs inutiles. Celui qui fait le travail, c'est le Seigneur par son Esprit. Il fait des choses qui nous étonnent, qui nous surprennent. Dieu est capable de faire de tels miracles. Je vais terminer sur ce point. Le peuple disait, la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Ils se considéraient, eux, comme captifs. Ils disaient, est-ce que c'est possible que nous soyons délivrés à nouveau? C'est ça qui est formidable dans ma vie, vous savez. Je peux dire en toute sincérité, mes chers frères et sœurs, que la patience de Dieu est mon salut. Parce que s'il avait dû me rejeter à cause de mes turpitudes, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Mais Dieu est fidèle. Et là, je considère ce verset. Est-ce que ça peut échapper encore? Qu'est-ce qui t'a été ravi, mon frère? Qu'est-ce qui t'a été ravi? Tu as perdu quelque chose? Tu as perdu la faculté d'exercer encore quelques dons spirituels? Tu as perdu l'amour de la lecture de la parole de Dieu? Tu as perdu l'amour
de la prière. Tu as perdu l'amour de ton frère et de ta sœur. Ça a été remplacé par de l'animosité, peut-être. Remplacé par quelque chose qui ne peut pas être comparable avec ce que nous recevons de Dieu. Et aujourd'hui, tu es là et tu constates ça. Et tu dis, est-ce que je pourrais retrouver? Est-ce que je pourrais retrouver? Et quelle est la réponse de Dieu? Verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Le diable est fort, mais Dieu est plus fort. Le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Alors nous n'avons pas à craindre. Par contre, il faut le chercher. Il faut le chercher avec son cœur, s'approcher de lui en étant bien conscient de sa miséricorde, bien conscient de sa grâce. Sans cette grâce, nous ne sommes rien. Et là, il est capable de redonner. Et je voudrais que nous prenions bien conscience que ce qu'il est capable de donner, c'est toujours bon, excellent. Des fois, le diable fait une œuvre terrible parce qu'il change les meilleures choses, il les imite, lui. Il est capable d'imiter ce qui vient de Dieu. C'est pour ça même, au niveau des dons spirituels, des fois, on est surpris parce que quand on lit la parole de Dieu, on découvre que l'action de l'Esprit de Dieu qui était à l'œuvre dans les églises au travers de la prophétie comme au commencement de l'œuvre de Dieu que nous avons connue dans certaines églises, c'était tellement profond et on voyait les choses du cœur être dévoilées. Il y avait aussi d'autres dons que l'on ne retrouve pas. Et moi-même, je me mets en question. Je dis, Seigneur, toi, tu n'as pas changé. Donc, si toi, tu n'as pas changé, encore aujourd'hui, ces choses doivent se manifester. Mais non pas l'imitation, non pas la chair qui remplace l'esprit. Et c'est tellement facile. Pas non plus une action qui vient de la part de l'ennemi. Vous savez, il est fort pour imiter les dons. Il est très fort. Et nous devons avoir, par le Seigneur, la possibilité de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair ou ce qui vient de l'ennemi. Mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'il peut nous donner la possibilité de retrouver cela. Et à partir de ce moment-là, que va-t-il arriver? Bien, les âmes qui vont venir vont découvrir que Dieu est là. Le don ne m'est pas accordé pour que moi je sois mis en relief, pour que je dise, t'as vu un peu? Comme ce fameux serviteur qui un jour s'est permis de dire sur l'estrade, vous voyez, ces mains qui ont guéri des milliers de malades, pauvre être insensé, ce n'est pas la main d'un homme qui intervient, c'est la main de Dieu qui est puissante. Alors mes frères et sœurs, ensemble, prions et demandons à Dieu que toutes ces choses promises à ce peuple qui sont justement devenus des exemples pour nous, que nous puissions aussi les vivre. Soyons pleins de confiance et accrochons-nous à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, que ta parole trouve un écho favorable dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Pardon pour nos turpitudes, nos erreurs. Pardon aussi, Seigneur, pour la manifestation de notre chair, et que ton esprit seul règne au milieu de nous. Encore une fois, je te prie pour mes frères et sœurs, pour ton serviteur ici, pour nous tous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et nous te disons, viens, Seigneur, nous guider par ta main forte et puissante, divin berger, que ce que tu as promis puisse se réaliser. Je sais que tu es vivant et que tu le fais, parce que nous venons de lire dans ta parole que si nous nous confions en toi, nous ne serons pas dans la confusion. Merci, et à toi seul soit toute la gloire. Amen.